Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Little Inferno, le nouveau jeu, enfin pas si nouveau parce qu'il est sorti en novembre sur Wii U, mais il vient de sortir sur iPad, des créateurs de World of Goo, Ni no Kuni, qui était déjà sorti en Japon sur DS ou sur 3DS.
Sur DS
et qui arrive en HD sur PS3. Évidemment, vous connaissez ce mariage de raison entre Level 5 et les studios Ghibli. Et enfin, Antichamber, l'espèce d'ovni, dont on voit des images et des extraits depuis 2009 et qui a débarqué ce mois de janvier sur Steam notamment. Et puis on retrouvera évidemment les rubriques habituelles dont Monsieur Fall et la Minute Culturelle, une très belle Minute Culturelle de Marmotte19 encore une fois cette semaine. Et oui, vous êtes prêts psychologiquement?
On tremble.
Vous avez une bonne demi-heure pour vous préparer psychologiquement.
On n'est jamais assez prêt pour du Marmotte19.
Ouais, je pense aussi. Et puis je vais commencer quand même en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Pierre-Alexandre Rouillon, aussi connu sous le nom de Pipo Mantis, de Canard Console, on va dire Canard PC, de Encart Console dans Canard PC, enfin voilà, de tout ça.
Canard PC, Canard Jeux Vidéo, beaucoup de choses.
Et ouais. Bonjour Pipo.
Bonjour Erwan.
Et Patrick Elio de Hitphone.fr. Bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Nous sommes toujours sans nouvelles, ça fait 4 semaines, nous sommes toujours sans nouvelles de Clément Appap, mais ne perdons pas espoir. Non, oui, mais j'espère bien. Oui.
Il est sûr qu'il n'est pas juste tombé dans un vortex en jouant à Faster Than Light ou un truc comme ça.
Ouais, il doit y avoir un truc où il est retombé dans Team Fortress 2.
Il
faut le sortir de là. Ouais, absolument.
Il faut absolument le sortir de là. On y travaille. On commence avec toi, Patrick.
Si tu veux. Non, mais si tu veux.
Non, moi, ouais, allez, changeons. Non, t'es prêt ou non, t'es pas prêt.
Un peu, mais ouais, si ouais. Tu veux, bien sûr. alors, oui, une news moi, que j'ai vu passer hier assez intéressante. J'ai vu ça sur le site MCV UK sur les chiffres de vente sur le Xbox Live Arcade. Alors c'est intéressant parce qu'on a très rarement accès à ce genre de chiffres. Là, c'est tombé donc sur des volumes et des chiffres d'affaires de jeux sortis pour l'année 2012, donc sur le Xbox Live Arcade. On apprend que la plateforme donc digitale a quand même générer un business de $290 millions, c'est quand même pas rien, hein, ce qui a doublé par rapport à 2011, donc moi que c'est en forte progression. Après, dans le détail, on va citer les trois premiers, c'est vraiment impressionnant, je pensais pas qu'on atteignait de tels volumes, c'est vraiment bluffant.
Alors, attends, ne dis rien, on n'est pas au courant, il faut qu'on essaye de deviner.
Alors, Xbox Live, Arcade, 2012.
Trials Evolution.
Il est dedans, bien vu, il est en deuxième position, alors lui, il a vendu un peu plus d'1 million d'exemplaires et il a généré un peu plus de $14 millions.
Alors, ensuite,
c'est déjà bien massif. Hein.
Je pense connaître le premier, mais j'aimerais bien essayer de
le troisième. On en a parlé il y a pas longtemps du tout. Et Erwan, je sais que tu t'en es toujours pas remis de ce
Mark
jeu.
Of the,
The Walking Dead.
Exactement. Ah, The Walking Dead, Telltale Games. Alors lui, c'est plus de 2 600 000
joli,
téléchargements
joli,
payants.
Joli.
Et ça a généré, ouais, 10 millions, plus de 10 millions de dollars.
Et là, j'ai du mal sur le premier parce qu'en plus, je crois le, enfin.
Bah, il est évident, en fait.
Oui,
part.
Voilà, il est évident, mais je crois que je sais que je le vois. En menu, c'est...
Il peut le dire.
Ah,
il,
mais
il
voilà, vas-y, je...
Creuse.
Minecraft, évidemment.
Eh oui,
alors
sûr,
là on atteint quand même des scores. Parce que je vois, c'est assez hallucinant. On est à pas loin de 5 millions d'exemplaires vendus plein tarif. C'est quand même un jeu qui est quand même pas loin de 15 euros, je crois. Hein, donc, c'est pas anecdotique. Il a généré près de 100 millions de dollars. Enfin, c'est... vraiment de l'industrie lourde. Là, on se rend compte que
on pouvait presque le voir venir parce qu'en fait, dans le XBLIG,
c'est très lourd.
Ah oui, bah oui,
sur le XBLIG, les premiers jeux, à part les trucs avec les avatars où tu leur jettes des tartes à la crème dessus, c'est des clones de Minecraft.
Donc, gros carton. Et en plus, je sais plus quand il est sorti en année, mais bon, on en est parlé ici.
Presque en début d'année, je crois.
Ouais, en début d'année.
Et donc, dans
le
top 10, je vais pas tout vous dire, mais bon, il y a du Counter-Strike, du Gotham City Impostor. I Am Alive, plus de 240 000 exemplaires, donc a bien marché aussi. Tony Hawk's, du Alan Wake American.
Nightmare
et du Trials HD aussi. Une autre news de chiffres qui fait plaisir. Voilà, regardez Dead Island. On vient d'apprendre qu'il a fait plus de 5 millions de jeux vendus dans le monde. Et c'est bien parce que c'est un jeu qu'on avait bien aimé. Enfin, moi, que j'avais beaucoup aimé ici. Hein, j'avais bien supporté. Donc, il a vendu plus de 5 millions. Donc, il a très bien marché. Et pour rappel, donc, la suite Riptide, qui arrive très prochainement est datée au 26 avril en Europe sur les mêmes consoles. Donc, on l'attend de pied ferme. Ça va être intéressant. Et puis, je finis sur une news rétro qui va faire peut-être plaisir.
Quand même.
Évidemment, alors l'info est tombée hier, ça fait un bruit énorme sur Internet, évidemment.
Ça fait le buzz.
c'est l'annonce d'une possible retour, peut-être. On parle pas de CinemaWare cette fois. Vous avez peut-être rêvé un jour d'être dans un épisode de Miami Vice dans les années 80. Hein, et on y arrive parce que Police Quest va peut-être revenir. Voilà, l'info est tombée. En fait, lors d'une interview,
C'était du Sierra déjà à l'époque.
C'était du Sierra Online, évidemment. Ouais. Hein, c'est quand même une de leurs grandes marques.
J'étais pas fan des Police Quest. Moi, c'était Space Quest.
Évidemment, Space Quest était beaucoup plus, beaucoup plus rigolo. Ouais. Mais ce qui était intéressant en Police Quest, c'était de retrouver vraiment tout le côté procédurier des enquêtes, etc. Et je me rappelle surtout du deuxième qui était vraiment très typé 80 avec des visuels. Enfin, on aurait vraiment cru un épisode de la série de Michael Mann. Mais bon, voilà. Donc, c'est lors d'une interview que le créateur de la série a expliqué qu'il avait le projet de lancer un Kickstarter pour créer un nouveau jeu.
Ah mais t'es parti loin quand
Police
même
Quest.
Patrick.
Oui mais on se raccroche.
Tu parles quand même d'un mec qui a le projet de lancer un Kickstarter quoi.
Mais c'est important parce
que à la limite tu parles d'un CinemaWare qui est en train de se planter sur Kickstarter au moment où on parle.
Justement, je vais faire apporter de l'espoir et se dire qu'il va sûrement lancer un Kickstarter et nous faire revivre cette licence mythique. Donc voilà, ce serait intéressant de voir ce que pourrait donner cette série qui a beaucoup évolué. Il faut se rappeler, il y a eu les SWAT aussi qui découlaient après. C'était une longue série les Police Quest qui a évolué sous différentes formes. Et je rappelle en petite parenthèse que les quatre premiers sont disponibles sur Good Old Games dans un pack pas très cher et voilà pour vraiment retrouver
et c'est toujours bien de parler de Good Old Games
moi j'avais pris le pack, il est très bien et je vous conseille le deuxième.
D'accord. D'accord, Patrick.
Emblématique.
Aucun problème.
Donc, affaire à suivre, on en reparlera évidemment.
Évidemment. Ouais, voilà. Ça, on compte sur toi.
Comptez sur moi.
On compte sur toi. Une très bonne nouvelle de ton côté, Pipo.
Mais que de bonnes nouvelles, hein. Alors, c'est pas mon genre de relayer des rumeurs, mais faut que celle-ci est assez grosse et malheureusement crédible pour être relayée. Le site CVG, donc Computer and Video Games, ainsi que le site du magazine Edge, disent avoir parlé à des sources qui actuellement développeraient sur la prochaine PlayStation et la prochaine Xbox, si tant est que soit leur nom, et que ces sources seraient en train de dire que la Xbox trouverait un moyen de complètement bloquer le jeu d'occasion en collant un jeu à un compte ou des choses comme ça, et tout bêtement de réussir à faire en sorte
que
tu ne puisses plus prêter tes jeux, tu ne puisses plus les revendre.
Un compte Xbox et pas de...
Si c'est pas une console.
Voir les deux. Hein,
voilà.
C'est
mais Donc c'est quand même une terrible nouvelle. Hein,
Bah déjà en fait on en a les prémices hein, avec on sait tous les jeux, même les jeux complets à télécharger aujourd'hui sur Xbox et sur PS3, ça pose ce problème-là de on a téléchargé, c'est à peu près au même prix que les jeux boîtes hein, et on ne peut pas s'en débarrasser après, on peut pas les prêter, on peut pas les revendre en occasion, on peut pas voilà les donner, ne serait-ce que ça. Enfin c'est vrai que il y a aussi un des trucs, que tu as un jeu, tu le finis, bon bah voilà, si tu l'as gardé 2 ans dans ta ludothèque parce que tu pensais, et puis finalement au bout de 2 ans tu sais qu'il revaudra rien en occasion, bah tu le files à un mec voilà, enfin,
c'est ouais, bien sûr.
Et ça tout le marché dématérialisé le permet pas, et là donc le projet ce serait Microsoft qui veut, même le marché matériel ne pourrait pas
c'est l'extension des codes, tu sais, où tu devais racheter un code pour le online, des trucs comme ça, c'est un peu l'extension malheureusement presque logique selon eux, en tout cas selon leur logique marketing, l'extension logique de ça.
Je crois qu'il y avait des rumeurs sur un brevet comme ça qui avait été déposé par Sony il y a déjà quelques temps, enfin c'est quelque chose qui court comme ça.
T'avais aussi le brevet de Microsoft sur leur prochain Kinect qui serait intégré à la console,
qui permettrait
apparemment de voir qui est en train de regarder un contenu. Et d'arrêter, par exemple, ils pourraient potentiellement, ça n'a jamais dit qu'ils le feraient, mais du coup ils auraient le potentiel d'arrêter un film en disant oh là là, cette personne elle a pas payé pour voir le film.
Ouais, vous avez
commence
payé,
à arriver à des choses un peu.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que d'une part, il y a tout ce débat hein, sur l'occasion, sur le dématérialisé. Il est en débat en Europe. C'est quelque chose parce qu'il y a eu un antécédent. Hein, il y a une jurisprudence sur le fait que les licences logicielles peuvent être revendues. Donc il y a la possibilité. Il doit y avoir une occasion des licences logicielles. Donc c'est une jurisprudence vis-à-vis un procès qui concernait Oracle, une boîte qui proposait des licences d'occasion pour Oracle. Et donc il y a tout un débat sur la musique dématérialisée, le cinéma dématérialisé, les séries et les jeux vidéo. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un droit du consommateur de pouvoir les revendre? Alors on imagine le bordel que ce serait sur Steam, mais ce serait assez marrant parce que voilà, t'as un compte Steam avec une cinquantaine de jeux, tu veux te débarrasser d'un, bah tu mets ça aux enchères et finalement Steam serait obligé de te refiler un code qui se supprimerait de ton compte et qui l'ajouterait sur un autre compte.
T'as une sorte de portefeuille virtuel. Moi ça fait très longtemps que j'aimerais que
en termes de valeur, tes jeux d'occasion des maths ont la même valeur vraiment que le jeu neuf, je veux dire. Un jeu d'occasion, évidemment, il peut être abîmé, il peut être
oui, mais normalement il tourne.
C'est
le principal.
C'est la même valeur.
Puis si ça continue comme ça, c'est la fin des collections aussi.
Et surtout, sur ce projet de Microsoft sur le physique, il faut savoir que c'est basé aux États-Unis, mais on a la même, c'est ce qu'on appelle la first sale doctrine, qui est qu'en fait, quand on achète, que ce soit un CD, un DVD ou un truc comme ça, le first sale doctrine, ça veut dire, en fait, au moment, l'acte d'achat supprime un certain nombre de droits, un certain nombre de droits d'auteur et donne l'opportunité à l'acheteur de revendre son bien. En fait c'est légal, la first sale doctrine. Il y a des droits qui ne sautent pas hein, le droit de diffusion en public hein, on sait, les avertissements sur les plateformes pétrolières, tout ça, on n'a pas le droit. Je sais pas si vous les aviez lus en entier, mais toujours ce truc là qui m'avait fait rire. Bref, la first sale doctrine donne ce droit-là aux consommateurs. Et donc, est-ce que Microsoft, on sent bien le business qui est derrière, mais est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Et ça, ce sera tout le truc. Moi, j'ai hâte que l'Europe impose à tous les États de mettre une loi disant qu'on a le droit de revendre les contenus numériques. Et
moi, j'ai hâte d'acheter un jeu et de voir, vous ne pouvez pas jouer à ce jeu dans votre pays. Ou...
Oui,
des choses comme ça. Une fois ouvert avec ce principe, le jeu est complètement identifié à la machine et c'est fini. Enfin, il est
en théorie, maintenant, ça reste. Attention, voilà, je préfère le répéter. Oui, ça reste de la grosse rumeur. Juste relayé par deux sites,
c'est pas la première fois, je crois, qu'on voit ces rumeurs.
Allez, le com des coms de la semaine dernière, Kraftanzunk. Oui, c'était le spécial The Cave. Hein, donc, mais je rêve où on a eu le droit à une vraie émission rétro. Quel bonheur! J'en reviens pas d'écouter en 2013 une émission sur le jeu vidéo qui parle des Goonies. Je me sens moins seul avec votre podcast.
On n'est pas seul, hein, vous n'êtes pas seul, Kraftanzunk.
Alors, il continue.
Pour les Goonies, il y aura toujours Patrick.
On peut jouer à deux.
Il continue donc cette spéciale The Cave. M'a bien entendu titiller la curiosité. On a bien senti la difficulté que Erwan et Patrick ont eu d'aborder ce test, vu l'importance qu'a le créateur de jeu dans leur vie de gamer et dans leur imaginaire.
Pourquoi nos voix tremblaient un peu?
Pour ma part, les défauts avoués des jeux d'aventure anciens en termes de déplacement et d'ergonomie ont souvent été rédhibitoires ou tout du moins gênants pour une immersion réussie à 100% dans des univers auxquels pourtant j'adhérais à fond. Je suis donc ravi que ce problème soit résolu par le gameplay plateforme et rapide. Je vais donc jouer à The Cave, qui pourrait dans ces conditions permettre au genre aventure de sortir du marché de niche qu'il a toujours rencontré. Et l'année dernière en marge, j'ai beaucoup pensé à Train en vous écoutant, la narration tout du moins, en est-on loin ? Effectivement, au système narration, au système énigme, et on est assez proche de Train, peut-être moins orienté action.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il n'y a pas les ennemis, par exemple.
Il n'y a pas les plateformes,
il n'y a pas les combats et ce genre de choses. Red, deux petites questions sur The Cave. Le jeu semble-t-il facilement adaptable sur tablette, auquel cas j'en espère un portage prochain. Moi, je ne suis pas convaincu parce qu'en fait, on est sur des contrôles, vraiment des contrôles au pad, le contrôle plateforme et tout ça. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait, mis à part ces pads virtuels qui marchent jamais sur tablette, c'est vraiment un problème. Enfin, pour
le
moi,
cancer
c'est...
des jeux de plateforme
je considère que les pads virtuels marchent pas. J'avais
posé la question à Ron Gilbert. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a une version iOS qui serait en développement ou Android. Et il m'a dit qu'il y pensait, il travaillait dessus, mais qu'il ne voulait surtout pas lancer une sous-version de The Cave sur ses bécanes. Et qu'en fait, il lancerait quelque chose le jour où ils auraient un prototype concluant en termes de gameplay.
C'est ce qui s'est passé avec Rayman et qui devrait se passer en théorie avec Meat Boy. C'est de faire du one-button game qui fonctionne, qui peut rester précis et difficile, parce que c'est pas parce qu'il y a un seul bouton que c'est.
On l'a vu sur Jungle Run.
Jungle Run, c'est ça. Et apparemment, Edmund McPinnon, pour le Meat Boy iOS, voudrait faire à peu près le même genre de jouabilité.
En plus, The Cave.
C'est la voie à suivre.
Je pense que The Cave, tu peux le faire sur une tablette sans une croix directionnelle, parce que tu touches l'endroit où doit aller le personnage, et finalement, t'as finalement peu de vraies séquences de plateforme difficiles. Je pense que ça peut se faire.
Why not?
En tout cas, ils y réfléchissent chez Double Fine.
Et il demande aussi, est-ce que le fait d'acheter un jeu kickstarté signifie que chaque achat est directement un bénéfice pour l'éditeur puisque le financement est déjà réalisé? Alors en fait, The Cave n'est pas kickstarté, hein, même si c'est Double Fine. Et surtout, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, les Kickstarters, ça finance le développement d'un jeu.
La production. Et après,
généralement, justement, le développeur est en position de force, vu que le jeu est déjà financé et qu'il n'y a pas de préfinancement éditeur, est en position de force pour négocier des droits plus élevés que un jeu où il va demander un préfinancement à l'éditeur pour pouvoir le développer. Généralement, enfin, on a peu d'antériorité, mais si le Double Fine Adventure est édité pour sortir en boîte ou je ne sais pas, Double Fine sera en position de force pour avoir justement des royalties peut-être plus élevées, sans doute même plus élevées que les autres.
Le business model est sain, en fait.
Ouais. Dernière réaction sur de Jukurpa. J'ai testé la démo deux fois hier, elle est tellement courte aussi, un coup en solo, un coup en coop, et ça m'a donné bien envie. Oui, on peut penser à du Train, mais uniquement dans la forme, le fond étant complètement différent. Par contre, à écouter Patrick, j'ai pris un peu peur quand il a commencé à parler des clins d'œil faits aux anciens jeux. J'espère que ce n'est pas trop insistant. Je n'en peux plus de ces jeux qui regardent en arrière et cherchent à titiller la madeleine des geeks nostalgiques d'un pseudo âge d'or. Oui, Fez, c'est à toi que je pense. D'autant plus que je n'ai jamais joué à un seul jeu de Ron Gilbert, donc voir une référence sans en comprendre le sel, c'est assez insupportable. Non. Il met une sorte de digression on. Au passage, on notera qu'à l'époque où on vivait avec les yeux rivés sur un avenir plein de promesses, et qu'aujourd'hui on vit la tête dans le rétroviseur à la recherche d'un passé confortable et rassurant, putain de génération Instagram, digression off.
Alors non, évidemment, moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup le focus sur ces clins d'œil aux anciens jeux, parce que ça m'a touché moi en tant que joueur. Avec l'expérience que j'ai
espèce de joueur Instagram.
C'est beau ça, j'adore. Gilbert,
mais évidemment non, c'est pas du tout une pièce centrale du jeu. On peut tout à fait jouer et profiter de tous les clins d'œil de Ron Gilbert sans connaître ses anciens jeux. Au contraire, c'est vraiment des petits clins d'œil supplémentaires pour ceux qui connaissent, et ça reste très 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 infime. Et vraiment, c'est pas du tout. C'est pas un jeu penché vers l'arrière. Au contraire, je pense qu'on a essayé de passer le message la semaine dernière de dire que c'était un jeu qui avançait dans son domaine du jeu d'aventure et qui allait vers l'avant.
Voilà. C'est beau ce que tu dis.
Voilà. Donc
c'est
beau.
Allez, passons. Bon, on va faire un petit feu, tiens, pour se réchauffer. Lit Little Inferno de Tomorrow Corporation, les ex 2D Boys qui avaient fait le célèbre World of Goo, qui était une des perles 2011, si mes souvenirs sont bons, de la scène indépendante. 2010 peut-être. 2010 World of Goo ou 2011? Bon, bref.
Je dirais 2010.
Voilà, 2010 sans doute. On va dire que t'as raison. Voilà, hein, pour cette émission-là, voilà. Entre nous, on va dire que t'as raison.
Ah, c'est
voilà.
La minute culturelle qui a commencé. C'est ça, faut le dire, les mecs, hein, parce que.
Little Inferno qui est sorti, qui faisait partie du line-up dématérialisé de la Wii U
au lancement
mm-hmm. Qui était à 10 ou 15 euros quand même 10 euros, ouais, oui, mais peut-être il est en promo maintenant,
sorti sur Steam peu de temps après aussi,
sorti sur Steam et qui vient de débarquer sur iPad. Là pour le coup le gameplay se prête très très bien à ça, hein. C'était mm-hmm. pratiquement un jeu fait pour dès le départ, un peu comme World of Goo déjà, qui était mm-hmm. très compatible avec le tactile. Bref, Little Inferno, moi j'ai découvert, hein, récemment, parce que c'est toi qui m'a averti de son existence. J'étais pas du tout passé dessus sur la Wii U, et donc ça m'a permis de le découvrir. Et c'est vrai que le premier, je savais pas du tout, hein, ce à quoi je m'attendais, donc je
t'as lancé comme ça,
ce à quoi m'attendre. Mm-hmm. J'ai lancé comme ça et je pensais que cette première scène, une espèce de truc bizarre avec des briques et tout ça, c'était un peu un tutoriel. On était devant une cheminée et puis machin, et puis finalement ce n'était pas du tout le tutoriel, c'était le jeu. En fait, Little Inferno, c'est l'unité de divertissement Little Inferno, c'est une petite cheminée qui permet de brûler tout et puis on s'amuse à brûler tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Patrick?
Très surprenant ce jeu. Alors, il a eu la note maximale sur itphone.fr, il a eu 5 sur 5. Un grand coup de cœur du rédacteur, je vous invite à aller voir l'article. Moi, je l'ai essayé sur la version Wii U, alors qui se joue... Moi, j'ai joué entièrement sur le gamepad, en fait.
Ah oui,
complètement sur le gamepad.
Moi, ma télé était éteinte.
Alors, c'est vraiment surprenant parce que c'est un jeu difficile à expliquer. En fait, on a un feu dans une cheminée, on passe son temps à brûler des objets qu'on lance dans le feu, qu'on doit alimenter au fil du temps. Alors, ça paraît pas très sexy comme ça quand on en parle, hein.
Ah non, mais ça paraît complètement naze quand on en parle.
Ça fait au début,
quand
c'est
on
pas
en
très
parle.
Sexy.
Mais en fait, ce qui est assez...
Moi, j'ai rigolé dès le début. Mais...
En fait, voilà, ça m'a surpris quand j'ai lancé le jeu, quand j'ai commencé à jouer. Je trouvais que c'est ça. Au début, on est vraiment scotché par la physique du jeu. Enfin, il y a un moteur physique vraiment intéressant. Des objets. Pour résumer, on a des catalogues d'objets qu'on peut brûler qui se débloquent au fil du temps, au fil des pièces qu'on débloque. Et dans plusieurs catégories d'objets, hein, voilà. Alors moi, j'ai senti que le jeu basculait lorsqu'on arrive, je crois, au troisième ou quatrième catalogue, quatrième page du catalogue, où on arrive dans la section jeux vidéo. Mmh. Et là, je me suis dit, oh là, il se passe un truc parce que ce jeu met le jeu en scène, hein. Il y a une espèce de mise en abîme assez intéressante. Il y a des trucs assez hallucinants où on peut brûler une tablette. Je sais plus comment le résumé de la tablette. C'est cette bécane où les jeux sont pas chers au début et après ça revient super cher.
Ah, c'est
plein de pics comme ça. Les monstres, les boss de monstres de jeux vidéo qu'on peut balancer dans le feu, qu'on peut détruire, etc.
On peut brûler des pixels. On peut brûler. On se met à brûler des
la
concepts,
disquette. La disquette de 1986 du prototype
de la version bêta de Little Inferno.
Il y a plein de cadeaux comme ça qui font plaisir à voir. Et on se rend compte au fil de la partie qu'on, finalement, on cherche un sens parce qu'on brûle des choses, on gagne des points, on se dit, mais à quoi ça sert? Finalement, on avance. Et, ressort finalement derrière ce côté très 50s dans le look, très, très gentillet, avec une petite pointe de Tim Burton dans l'interface, on sent qu'il y a un malaise qui s'installe quand on joue. Il y a un côté, on brûle les objets qu'on achète, qu'on jette au feu automatiquement, qu'on détruit. On sent qu'il y a une attaque du côté consumériste aussi, je trouve, de la société de consommation. On sent que, voilà, on attaque des choses, on détruit des choses finalement qu'on regrette pas, lorsqu'on les brûle, on les achète pour les brûler aussi vite. On sent que c'est plus profond que ça peut en avoir l'air. En termes de gameplay, je trouve qu'il y a vraiment, en jouant, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de dichotomie. C'est un jeu un peu bicéphale. Dans ce côté, on joue avec la physique à l'écran. On joue avec ce qui est dans le feu. On peut jeter les objets, continuer à les faire bouger entre eux. On met en place des combos, etc. Et derrière, il y a toute cette dimension puzzle où on doit justement assembler des combos à base d'énigmes. C'est-à-dire qu'on nous propose des combos, ce sont des petites devinettes en fait. Ouais. On a un petit descriptif, j'en ai plus en tête comme ça, mais on
la
doit...
Combo, la combo LOLCAT, la
soirée
la combo...
cinéma.
Alors on se dit,
cinéma,
bon voilà, il faut prendre un chat en mousse et le prendre avec un appareil photo et paf, ça explose, on a un combo.
On
et
a en regardant un petit LOLCAT. Peu... Tu viens de spoiler la combo LOLCAT.
Voilà, mais en même temps, c'est pas, elles sont pas faciles hein, les combos. Moi j'ai ramé vraiment sur certains trucs et je pense que c'est... Voilà, il y a du travail pour débloquer tous les combos. Et en gratouillant un petit peu, je suis allé voir sur le site des développeurs, donc il y a World of Goo évidemment, et j'ai vu que c'est les gens aussi qui ont signé un jeu DS dont on avait parlé ici, c'était Henry Hadsworth sur DS. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, qui était justement lui aussi très bicéphale, parce qu'on avait sur l'écran du haut un jeu de plateforme et en bas un espèce de Tetris-like, et le gameplay était très très bien voilà, implémenté, tout ça correspondait bien. Et finalement, je trouve qu'on retrouve ce côté de double jeu en un dans ce titre.
Ouais.
Et ça marche très bien. Je trouve que c'est vraiment ingénieux de la façon dont tout ça se met en place.
T'en as pensé quoi?
Un peu moins convaincu, moi. J'ai trouvé ça distrayant, du peu que la partie a duré pour moi. Effectivement, je ne suis pas allé très loin. Je ne suis pas allé jusqu'au catalogue merveilleux où on brûle des pixels et je vais relancer le jeu.
Je crois que c'est le quatrième.
C'est peut-être là qu'il y a un point, justement.
Et moi, c'est là où j'ai senti que ça
m'accroche. Parce que jusque-là, j'ai trouvé le truc un peu vain. Effectivement. Ça m'a pas éclaté de trouver les combos à cause d'un truc qui est justement que tu dois attendre. Alors tu as des pièces pour acheter les objets et quand t'en as plus, tu dois attendre. Si je me souviens bien, pour avoir de nouvelles pièces, pour avoir de nouveaux objets.
Non, t'as toujours. Alors en fait, le truc c'est que t'as toujours des pièces parce que en fait, quand t'achètes un objet, un certain nombre de pièces, quand tu le brûles, tu gagnes plus de pièces.
Plus.
Oui. C'est chaque objet, objet brûlé t'amène un bénéfice.
Il y a pas de game over. Il y a pas de game over.
Au pire, si t'as vraiment, en fait, les situations où tu as peu de te retrouver sans pognon, c'est si tu débloques un nouveau catalogue alors que t'as pas d'argent de réserve et là tu te retrouves avec très très peu d'argent pour aborder le nouveau catalogue. Mais
je suis pas sûr
normalement,
jeu, ouais,
mais t'as des petites araignées qui arrivent qui te donnent des pièces gratos. Mais c'est que tu brûles, hein, tu brûles tout. Pardon.
Et effectivement, alors oui, je m'amusais à trouver les nouvelles animations de chaque nouvel objet que je brûlais. Alors il y a des trucs effectivement très glauques et assez rigolos comme ce quart d'enfant que tu brûles en entendant les hurlements des gosses et tout.
C'est vrai
que tu t'en parlais tout à l'heure, l'univers tout mignon alors qu'en fait derrière c'est ultra glauque, tu reçois des lettres de ta petite voisine, c'est super malsain. Enfin,
c'est un peu comme The Cave en fait.
Ça fonctionne pas mal. Effectivement, les mecs de 2D Boy ont annoncé plusieurs fois que c'était un petit peu une pique envers les jeux Facebook. Cette espèce de truc où ben on en parlait encore, le jeu qui est pas cher au début puis qui revient de plus en plus cher machin, une espèce de pic envers tout ça, envers ces jeux avec de l'argent dans le jeu que tu dois acheter, avec un système de temps où tu regagnes des trucs avec le temps. Et j'ai trouvé, alors c'est ce que j'appelle le syndrome Cabin in the Woods, qui est un film que j'adore d'ailleurs, mais qui pendant sa première demi-heure essaie de se moquer des films d'horreur et tombe dans tous les travers des mauvais films d'horreur en voulant les moquer. Et du coup c'est un mauvais film d'horreur pendant une demi-heure. Et je trouve que Little Inferno, sur le début en tout cas, en voulant parodier les mauvais jeux Facebook, devient lui-même un mauvais jeu Facebook ou un mauvais jeu Flash. Et il y a un truc qui a pas cliqué avec moi.
Moi, je suis d'accord sur le côté tordu de certaines associations. J'ai trouvé que des fois, c'était vraiment, vraiment difficile à cerner parfois. J'ai un peu ramé et c'est vrai que des fois, c'est un peu laborieux. En revanche, moi, je trouve qu'un des points forts, c'est que c'est un jeu vraiment orienté tactile à 100%. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc lorsqu'on maîtrise le feu à l'écran. Enfin, il y a vraiment.
Il faut dire que je l'ai fait sur PC, ça a peut-être pas aidé.
Enfin, voilà, il faut vraiment le faire. Enfin, sur la Wii U, ça marche super. On a vraiment l'impression d'allumer le feu du bout des doigts. Enfin, je trouve que c'est super bien foutu.
Ils l'ont transformé en pyromane.
Alors, on l'a perdu là. C'est vraiment un jeu tactile pour moi. Enfin,
moi, je trouve. Alors, d'une part, moi, il y a plein de choses. À peu près, tout m'a séduit au grand désarroi de ma moitié qui me regardait avec des yeux un peu.
Brûler plus de choses, brûler.
C'est compris. Bah, j'ai fait une démo.
Pourtant, justement, pour rebondir sur ce qu'on disait sur The Cave la semaine dernière, je pense aussi que c'est un jeu qui doit beaucoup se jouer à deux. C'est vrai que moi, je l'ai fait tout seul avec mes. Ouais. Et j'ai eu du mal à associer les objets. J'ai un peu ramé. Et je pense qu'à plusieurs, on peut jouer à plusieurs. L'écran est animé et on peut justement se dire, bah tiens, pense à associer ça avec ça. Et à mon avis, à plusieurs, ça doit être plus.
Alors
sympa,
là où moi je ne suis pas d'accord avec les créateurs, s'ils pensent que c'est une. Enfin, ils ont pris un des concepts. Pour ceux qui aiment les jeux Flash et les jeux, choses comme ça, on pense à Doodle Gods et sa suite. C'est-à-dire associer deux éléments pour en créer un troisième. C'était ça, Doodle Gods, ou Achievement Unlocked, parce qu'on a une liste de non-achievements et puis finalement on trouve comment faire des unlocks ou finalement les achievements dungeon devienne, à la place d'être un truc qui se situe au-dessus du jeu, ça devient l'objectif. Et là, en fait, en termes d'achievement, c'est trouver des combos, donc des combos de deux ou trois objets qui, où le seul indice, c'est la description du combo. On a, voilà, le combo lolcat, le combo soirée ciné, le combo, le combo japonais, le combo,
c'est pas évident, c'est ça qu'on a, on a 4-5 pages.
Le combo méta. Il y en a 99. Il y en a 99 à trouver. Et on doit, en trouvant les combos, en ayant assez de pièces, en achetant, en finissant chaque catalogue, ça débloque le catalogue suivant. Il y en a 6 en tout. Les animations et surtout ce qu'on, ça va du descriptif des objets à la façon dont ils réagissent une fois enflammés, à certaines animations de deux objets en même temps qui ont leur propre animation quand ils brûlent ensemble, des objets spécifiques comme les astres, parce qu'on trouve la lune, Pluton, le soleil, les galaxies, qui finalement créent une gravité, donc les objets se mettent à tourner autour, les choses qui volent, qui s'envolent, qui sortent de l'écran, etc. Je trouve qu'il y a un aspect assez jouissif de découverte, parce que c'est un jeu rapide aussi, c'est-à-dire j'ai pas trouvé qu'on poireautait tant que ça, on poireaute pas, les trucs arrivent, ça, on brûle, on achète des trucs pendant ce temps-là, enfin, et il y a quelque chose d'assez hypnotique, de drôle, parce qu'en plus, donc il y a un scénario, vous n'en avez pas parlé de ce scénario. Et là,
c'est un jeu très bien écrit.
Et on reçoit des lettres de 3 ou 4 destinataires, la voisine qui est extraordinaire, qui nous envoie des cadeaux, qui nous raconte sa propre expérience avec son unité de divertissement Little Inferno. Bref,
faut rappeler que ce sont des cheminées pour enfants.
Oui, hein, c'est
des jouets pour que les enfants puissent brûler des choses.
Exactement, c'est décrit comme ça. Et il y a tout cet univers comme ça, un petit peu décalé, très très drôle, très humour noir, et puis très, je me moque un peu de tout l'univers, et l'univers technologique, et des jeux vidéo, et tout ça. Il y a plein de petites remarques. La petite vidéo est très bien. Et surtout, il y a une vraie histoire, et il y a une fin qui est, je ne parlerai même pas de la fin, et je ne parlerai même pas de comment ça se passe, mais il y a une vraie récompense. C'est-à-dire que, grosso modo, sur la 99 combos, il faut en débloquer 36 ou 37 de mémoire pour pouvoir débloquer une quarantaine pour débloquer le dernier catalogue. Et une fois qu'on a acheté le dernier objet du dernier catalogue, on a une combo finale, et à ce moment-là, il y a une vraie fin qui dure assez longtemps et qui est vraiment super bien écrite, elle aussi. Et voilà, moi, je suis complètement tombé dedans. Après, c'est quoi, c'est 3 heures de jeu, on va dire, pour débloquer tout. Et après, en plus, il y en a plus si on veut avoir débloqué les 99, parce que là, il faut se creuser la tête, évidemment.
Combos, ouais.
Et franchement, moi, j'ai trouvé. Après, voilà, c'est ceux qui sont tombés dans Doodle God, ceux qui sont tombés dans ces petits trucs à achievement, à trucs à moitié tordus, de mariage de deux objets, il y avait vraiment un truc très très bien fait.
Ça coûte combien sur iPad?
5, un peu moins, 4,49.
C'est plus son prix que les 10 euros.
Mais sans item selling derrière. Donc voilà, il y a pas le côté rachat derrière, donc
c'est pas choquant pour un économiseur d'écran interactif, c'est ça.
Ta 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 ta. Et alors un économiseur d'écran interactif
avec des achievements,
bordel.
C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on est au même endroit, on a toujours le même fond d'écran, mais il se passe plein de choses finalement sur cet écran.
Voilà.
Au fil de la partie, il se passe énormément de choses.
Et il y en a des lettres
on a des bombes nucléaires qui se mettent en route, il se passe plein de choses.
Et il neige dehors et on a le monsieur de météo qui nous fait les
C'est ça qu'il y a une vraie narration, c'est surprenant.
Il y a une vraie histoire,
prise de parole comme ça, par lettre.
Allez, on va parler à un jeu avec un peu plus d'ambition quand même, Ni no Kuni.
Welcome to my world, Holly Boy.
Another world.
C'est une rencontre assez naturelle qui s'est effectuée entre le studio Level 5 et les studios Ghibli, donc de Miyazaki, hein, bien connu pour et comment il s'appelle l'autre, enfin le tombeau des lucioles, je ne sais plus, Takahata ou un truc comme ça, je ne sais plus. C'est ça. Bref, Princesse Mononoke et Porco Rosso et tous les autres. Il y en a une tonne de Miyazaki, on va pas tous les citer. Mais voilà, il y avait un truc qui allait ensemble. On se souvient des quelques des quelques petites animations qui étaient là dès les premiers Professeur Layton, entre les petites cinématiques, où on retrouvait un peu cet esprit, ce joli dessin animé, ça rappelait vraiment les productions Ghibli. Voilà, donc ils ont décidé d'officialiser la chose. Ça a donné Ni no Kuni uniquement au Japon sur la version DS. Ça n'a pas passé la frontière d'une manière complètement incompréhensible, mais ça nous permet de l'avoir en HD direct sur PS3. Moi, dû à quelques problèmes techniques que je ne m'étalerai pas, j'ai juste vu le tout début. Mais toi, Pipo, tu y as bien joué.
J'y ai beaucoup joué. Avant tout, j'aimerais mettre un disclaimer.
Fais ton disclaimer.
Pour expliquer que j'ai une tendance à la haine envers le RPG japonais classique. Moi, sorti de Valkyrie Profile, Chrono Cross et Final Fantasy VIII, qui n'est pas classique, j'ai un vrai problème avec le RPG.
Tu veux dire les villages qui brûlent, l'exil, tout ça?
Les villages qui brûlent, les combats aléatoires, les héros qui pleurent, tout ça, c'est pas du tout ma came. Et pourtant, Dieu sait qui chouine, le héros de Ni no Kuni. Et pourtant, je suis tombé dans Ni no Kuni, mais tête la première, et j'ai trouvé que c'était un RPG fantastique. Alors que c'était vraiment pas gagné, puisque la construction de Ni no Kuni, c'est le RPG de base, mais alors de base.
Ce que t'aimes pas à la base.
Ah ouais, ce que je hais, c'est-à-dire, tu commences dans la petite forêt, ensuite c'est la plus grande forêt, ensuite c'est le premier village, oh là là, la petite fille machin, elle a des problèmes dans le premier village, il faut la sauver, oh le premier donjon avec le premier monstre. Enfin, c'est vraiment, et c'est d'une lenteur, c'est poussif, et ce qui fait que tu tiens à ce moment-là, c'est la beauté du jeu.
Ouais.
Parce qu'il faut voir que c'est superbe. C'est là vraiment splendide.
Là, pour le coup, c'est vrai que aujourd'hui, en 2013, il y a plus beaucoup de jeux. Hein, même on voit entre nous, quand on discute, il y a plus beaucoup de jeux où c'est une beauté graphique qui va d'abord nous émerveiller. On va s'émerveiller plutôt du gameplay, de l'univers, de la construction. Aujourd'hui, on s'intéresse plus beaucoup à la claque graphique. Peut-être dans d'ici un an, ça reviendra.
C'est intéressant de connaître les coulisses, de savoir comment ils ont travaillé ensemble entre le studio d'animation et les développeurs.
Et là, c'est vrai que la finesse.
Je trouve que la direction artistique est pour beaucoup aussi, justement. C'est les couleurs. Les couleurs.
C'est vrai.
Oh là là, la première forêt, des couleurs magnifiques.
Il y avait eu un premier essai un peu dans ce genre-là, mais malheureusement, le jeu n'était pas terrible. C'était Chopin. Il y avait un truc à base de Chopin aussi.
Eternal Sonata.
T'es sûr?
Ouais, je crois.
Je vérifie. Mais il y avait un truc avec du cel shading qui faisait des dessins animés aussi.
C'était ça, c'était Eternal Sonata.
D'accord, peut-être. Et donc.
C'était pas super.
Non.
C'est encore plus poussif que Ni no Kuni.
Et donc voilà, là on a une vraie claque quand même visuelle. En plus, si on aime le travail des studios Ghibli, là pour le coup, c'est vrai qu'on retrouve directement la patte.
Ah oui, puis il y a même des séquences animées Ghibli, il y en a beaucoup et elles sont magnifiques. Et bon, alors passons. Donc je commence à me taper quelques heures et puis sans trop le comprendre, je continue à jouer quoi. Je me demande pourquoi et puis arrive de nouveau. De nouveaux éléments de gameplay, on parlera des combats après parce que c'est intéressant, mais il vaut mieux que ça vienne après. Arrivent les familiers, qui s'appellent sûrement familiers parce que Pokémon s'était déjà pris. Mais en gros, tous les ennemis que tu vas rencontrer, tu peux plus ou moins, t'as une chance de les capturer et de
Dragon
les avoir
Quest.
Dans ton équipe et de les faire combattre. Tu peux en avoir jusqu'à 3 par personnage de ton équipe, en sachant que tu arrives jusqu'à 3 personnes dans ton équipe.
Donc ça fait 9.
T'as un total de 9 familiers.
Wow.
Mais tu peux en avoir d'autres que tu vas faire leveler, à qui tu vas donner des bonbons, mais certaines races de familiers préfèrent tel type de bonbons. Enfin, c'est assez intéressant. Il y a un jeu dans le jeu qui rappellera un peu le.
Sombré, là, quand même, hein.
qui rappellera un peu le Shadow Garden de Sonic Adventure, pour les plus anciens.
C'est tout le système des monstres de Dragon Quest aussi. Hein.
Aussi,
c'est,
oui.
Ouais, c'est
collectionnite, quoi.
Ouais, la collectionnite.
À fond. Les quêtes secondaires. Pareil, c'est super intelligent. En gros, il y a plein de petites quêtes que tu peux faire à droite à gauche qui vont remplir des cartes que tu as à tamponner, comme des cartes de fidélité. Mmh. Et tous les 10 tampons, tu gagnes un point de quête secondaire, entre guillemets, que tu vas pouvoir dépenser pour avoir des perks que tu ne peux avoir que comme ça. Aller plus vite sur la map, trouver les ennemis plus facilement à tel endroit, enfin... C'est tout.
Donc
ça
ils ont trouvé
vraiment
les
super
moyens
bien.
De t'accrocher toi, qui n'est pas forcément un...
Exactement.
Belle perf.
Alors, jusque-là... Tout va pour le mieux. La traduction française est fantastique, d'ailleurs, en passant. C'est vraiment le travail effectué là-dessus. Les noms des monstres, les personnages, les dialogues, c'est génial. Et il y a quand même une chose qui m'empêche parfois de remettre le jeu dans la console, c'est les combats. Et là où c'est assez rigolo, c'est que finalement, Ni no Kuni me déplaît le plus quand il s'éloigne du RPG classique, en fait.
Ouais, quand il s'éloigne du tour par tour.
Exactement.
Et qu'il fait le tail-off.
J'aurais préféré avoir du tour par tour, alors que là, j'ai un espèce de tails-off, donc où je choisis un des 3 personnages que je joue. Les deux autres sont gérés par une IA. Alors ils font n'importe quoi parce que l'IA elle est con comme un balai, c'est juste pas possible. C'est pas bon, ça, mais... Et surtout, quand les combats durent plus de 5 minutes et que j'ai vidé ma barre de magie, à savoir contre les boss, je passe un quart d'heure à tourner autour du boss, en attendant qu'arrivent les orbes de magie et de vie un peu aléatoirement pour pouvoir relancer des magies.
Ah oui.
Et il y a un vrai truc qui fonctionne pas là. Il y a un problème de dynamique. Alors que c'est dommage parce que c'est magnifique, ça bouge plutôt bien, ça a de la gueule. Il y a un vrai travail par contre dans les combats sur le placement, les contre-attaques. C'est intéressant de te placer au bon endroit, d'envoyer ton attaque au bon endroit. Donc il y a des trucs qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. Donc les alliés et surtout les combats de boss. Donc c'est un peu frustrant. Mais il y a que ça et ça m'a pas empêché de continuer alors que ça aurait pu être vraiment le point de rupture. Et il y a une dernière chose à dire sur ce jeu, c'est que sur DS, il était vendu avec un gigantesque bouquin.
Ah oui, ça c'est quand même le point un peu décevant. Enfin,
un peu décevant.
Enfin, même beaucoup
de bouquins, ça ressemblait à
beaucoup
quoi
c'était bien plus gros que la DS.
Ouais,
déjà.
Ouais, donc
c'était très décevant.
C'est un livre, quoi, un vrai livre.
C'était le même jeu sur DS.
Ouais.
C'était le même.
C'était le même jeu, je crois un peu plus facile. Je crois qu'il a été rendu plus difficile. Il est parce qu'il est pas simple. On peut mourir très facilement si on grinde pas un petit peu à droite à gauche. Et donc il y a ce grimoire qui est le grimoire du sorcier qui contient l'histoire du monde, des contes et des fables, le bestiaire des ennemis, l'alphabet parce qu'il y a un alphabet différent, plein d'infos comme ça sur le monde, des recettes d'alchimie, etc. Et qu'en fait il va falloir assez régulièrement aller consulter.
Mais donc, dans le jeu, enfin, tu l'as pas en ligne.
Il y a une version dans le jeu qui est très agréable à naviguer d'ailleurs, qui est très jolie, qui est plutôt classe. Quand tu arrives sur la page d'un monstre, et ben il s'anime et donc ça fonctionne très bien, mais
Et il n'y a pas la possibilité d'avoir le grimoire sur au cas où pour les plus aisés de parmi les gamers
sur tablette
sur Vita ou un truc comme ça, un truc déporté
pas
sur
Vita.
Vita
ni sur tablette.
Ça,
alors qu'il pourrait faire un fric monstre en le vendant à 5€ sur iPad,
c'est dommage.
Et donc parce qu'en fait il y a des moments où tu as des énigmes, un personnage qui va te dire voilà, pour avoir accès à la suite du niveau, lis cette légende de notre monde. Mm-hmm. Et donne-moi la réponse à ma question. Donc
là, il faut vraiment se reporter.
Dans ce conte, que s'était-il passé? Alors là, tu vas dans le menu, puis tu vas ouvrir ton bouquin. Mais le plaisir que ça aurait été de pouvoir ouvrir l'almanach sur les genoux,
et donc,
de pouvoir fouiller comme le sorcier, ou alors avant chaque combat, de regarder l'ennemi et dire qui c'est lui, et de regarder dans l'almanach quelles sont ses faiblesses et ses forces. C'est vraiment un truc qui manque et qu'on va retrouver que si on veut raquer 90€ pour l'édition collector, qui, elle, aura des impressions du grimoire.
Ouais, bah ça c'est pas terrible.
C'est un peu dommage.
Ouais, c'est même très dommage parce que la version DS, comme tu l'as dit, était livrée de base avec
c'est sûrement d'ailleurs pour la traduction de ce grimoire qu'elle a jamais quitté le Japon, cette version.
C'est vrai, on dit. C'est
parce que alors malheureusement, j'ai pas mis mes doigts sur l'édition collector pour le moment, mais je crois que le grimoire est en anglais partout en Europe, bien évidemment.
Ils
peuvent pas le traduire.
Donc si ils peuvent, je suis désolé.
Enfin, non, ils ont pas l'argent, non. Là,
ils ont l'argent. Ils vont vendre plus de 3000 exemplaires en France. Je suis désolé, mais
non,
sérieusement,
c'est vrai.
Ils vont vendre plus de 3000 exemplaires en France. Tu peux traduire un livre pour 3000 impressions.
Tu conseilles le collector quand même.
C'est horrible à dire parce que je suis vraiment du genre à dire de pas le faire. Mais si vraiment vous pensez que vous allez vous jeter dans le temps.
Mais le grimoire est en anglais dans le jeu aussi.
Dans le jeu, il est traduit en français.
Et bah alors, la traduction est faite.
Est-ce qu'ils l'ont imprimé en français? J'en sais rien.
Bah ouais, non, mais c'est
à voir. Malheureusement, moi, je l'ai pas sous les mains.
Ah là là.
J'ai personne sous la main qui a l'édition collector. Et pour finir, alors voilà. Donc je pensais vraiment qu'il y a rien qui allait marcher et j'ai pas marché. J'ai couru. Je me suis retrouvé comme un môme de 8 ans devant justement un de mes premiers Ghibli, perdu dans ce truc merveilleux au sens premier du terme, quoi, vraiment féerique. Et j'ai pas lâché, quoi. Et je l'ai lancé le premier soir en me disant, je vais pas me fader un RPG Jap pour le boulot, j'en ai marre, machin. Et je me suis couché à 8h du mat.
Blasé, quoi.
Ah ouais. Je me suis couché à 8h du mat.
Ah
j'étais
ouais.
à fond. Et je me suis vraiment juste couché parce que mes yeux se fermaient. Si je pouvais, je continuais, quoi. Donc, c'est vraiment fantastique. T'arrives dans le village de Almameu, qui est le petit village plein de vaches au milieu du désert du Sablara. Et tu vas voir l'impératrice qui est une génisse géante qui veut manger. C'est vraiment merveilleux comme peut l'être un Chihiro ou des choses comme ça, quoi. Donc je le conseille à mort, même si effectivement c'est pas toujours simple. Il y a des combats vraiment chiants et il faut vouloir mettre 90€ dans le grimoire. Si jamais vous pouvez mettre 90€ dans le grimoire, allez-y. Par contre, voilà, pas pour les mômes, parce qu'on n'est pas sûr que le grimoire soit traduit en français et parce que y a vraiment des combats, tu peux pas laisser un môme là-dessus, quoi.
Mais c'est quoi, sinon, parce que c'est trop dur.
c'est trop dur.
Mais c'est... Tu sais, c'est très très bien laisser les mômes et les aider pendant les combats. C'est un. Hein
ça peut... je hurlais de frustration. donc,
ah oui, donc il vaut mieux
pour
pas.
Pour d'accord. le bien d'un de mes. Si jamais un môme pour son bien, je n'y ferai pas le hasard.
À 8h du matin, tu hurlais de frustration.
Exactement.
Mais donc, Nino Kuni, est vraiment fantastique. Ouais. Exclu PS3. Exclu PS3, donc Namco Bandai et Level 5 et Studio Ghibli aux commandes. Voilà, bah, t'as donné bien envie en tout cas.
Cool.
Non, mais moi j'ai bien envie. De toute façon, je vais m'y mettre maintenant que je peux m'y mettre, mais malheureusement, j'ai eu un peu. J'ai vu les 20 premières minutes, ce qui est un petit peu limite pour parler vraiment d'un JRPG. Donc j'ai évité. C'est magnifique. C'est magnifique. De fait, c'est magnifique. Ça, je l'ai bien vu. On va accueillir Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net. On le dit pas assez. Avez-vous été sur TrickTrack.net cette semaine? Vous devriez aller sur TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Monsieur Fall et sa chronique jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose l'Égypte antique grâce à Kemet, un jeu signé Guillaume Montiage et Jacques Barriot. C'est un jeu édité en français par Matago pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes. Nous sommes là face à un doux mélange entre le jeu à l'américaine avec un thème fort, des figurines, et un jeu à l'allemande avec de la stratégie pure, de l'intelligence et quasiment zéro hasard. Dans Kemet, vous allez tenter de marquer des points de victoire en contrôlant des territoires et en fracassant les armées adverses. Donc vous voyez, on est dans l'américaine, il y a un peu de fight à l'intérieur, mais ces fights se font avec de la réflexion pure et pas de hasard puisque vous avez des cartes avec des points dessus que vous allez abattre consciemment, perdre, essayer d'influencer votre adversaire en bluffant. Bref, il y a zéro hasard et beaucoup de stratégie à l'intérieur. Bien sûr, c'est un jeu où vous allez devoir tout contrôler, gérer. La nuit, vous allez prier les dieux pour récupérer des points de prière, pour balancer des plaies sur vos adversaires. Enfin bref, c'est fin, c'est subtil. La règle est un peu complexe, mais assez fluide et agréable. On peut y jouer même si on n'est pas très très costaud. Par contre, c'est un jeu où il va falloir un petit peu d'investissement intellectuel. C'est un jeu où le matériel est à foison. Vous avez des figurines magnifiques, plein de pions partout sur une carte que vous étalez sur votre table. C'est complètement dingue. Et c'est un jeu où vous allez vous fâcher avec vos amis, puisque c'est un jeu où vous allez être déclaré vainqueur instantanément quand vous atteignez 10 points de victoire. Il y a des points de victoire permanents et des points de victoire temporaires. Donc parfois vous êtes proche de la victoire, mais pas du tout. On va vous piquer vos points de victoire temporaires. Et pour ce faire, vous allez devoir user de fourberie en essayant de dénoncer un de vos camarades qui serait potentiellement proche de la victoire. Regarde, je crois que lui va gagner, va le taper. Pendant ce temps-là, que l'autre va taper votre copain, vous passez par derrière et paf, vous lui prenez son territoire, vous lui écrabouillez son armée et vous êtes peut-être déclaré grand vainqueur. Enfin bref, ça se joue toujours à un rien de poil de cul tendu. C'est ce qui est extrêmement plaisant dans Kemet. C'est un jeu signé, je vous le rappelle, Guillaume Montiage et Jacques Barriot pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes. Je vous l'ai dit, le matériel est assez énorme. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, de belles figurines bien sculptées. Donc le jeu est un peu cher, 60€. Voilà mon cher Erwan. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net. La minute culturelle de Marmotte 19. Je vous l'avais annoncé. Et en fait, c'est une minute culture générale.
Culture générale. Jeux vidéo quand même.
Alors il y a une question cinéma, il y a une question géographie, une question histoire, une question économie, une question littérature et une question musique. Vous voulez commencer par quoi?
Trivial Poursuite.
Voilà, c'est ça.
Allez, cinéma. Vas-y.
Allez, la question cinéma. Quel est le rapport entre Windjammers? Vous connaissez Windjammers?
Sur
Neo Geo.
Sur Neo Geo.
Neo Geo, pardon.
Et les films Predator, Sherlock Holmes, L'Arme Fatale, Die Hard et Matrix. Celle-là, elle est un peu tirée par les cheveux, hein, quand même, hein, je vous préviens. Mais si vous trouvez, je vous nomme gagnant à vie de la Minute Culture.
Joël Silver?
Oh putain, connard.
Gagnant à vie de la Minute Culturelle, messieurs dames.
Il faut savoir, il faut me dire le contexte, et c'est là où t'as aucune chance. C'est quoi le rapport, hein? Joël Silver, c'est bien gentil, mais...
C'est pas le nom d'un perso dans Windjammers, Joël Silver?
Non. Ah bah voilà, donc tu perds ton statut. Tu perds ton statut. Mais, Joël Silver effectivement fait partie de la réponse. Alors, je vais commencer à lire la réponse que Marmotte 19 a bien gentiment.
Les célèbres réponses à rallonge de Marmotte 19.
Alors, bien qu'il n'ait jamais été jusqu'au procès, un des créateurs de l'Ultimate, un jeu de frisbee aussi connu sous le nom de 10S, qui provient de la règle de détention du frisbee qui ne doit pas excéder 10 secondes, a déclaré que Windjammers est un jeu de frisbee dont l'idée est basée sur le véritable sport de frisbee 10S. En tant que créateur, je n'ai jamais donné la permission ni signé un quelconque accord pour autoriser Neo Geo ou Data East à utiliser le 10S comme modèle pour Windjammer, et je n'ai jamais été compensé pour l'utilisation illégale des règles du 10S et de sa méthode de jeu. Et 10S a été créé en 77 et est sous copyright depuis 80.
J'ai beaucoup plus joué à Windjammers que 10S.
J'ai toujours dit vive le copyright. Et donc voilà. Et le rapport avec le Schmilblick, eh bien, c'est que parmi les créateurs du 10S sont Jared Kass, Johnny Hines, Bernard L. Ring et
Joel Silver.
Et Joel Silver, qui n'est d'autre que le producteur de cinéma derrière les films cités plus haut. Oui, parce que toi, tu n'avais pas fait le lien entre Windjammer.
Tu n'avais pas le lien
entre tous les autres.
Mais note que j'ai eu de la chance.
Ouais, c'est pas mal. T'as failli me faire peur quand même, hein, à un moment. Mais bon, tu as perdu ce statut que tu as eu pendant une seconde et demie.
Écoute, voilà. Ça me suffit.
Alors, on va continuer. Alors, la question géographie. Dans quel jeu trouve-t-on un personnage dont le nom se prononce comme la capitale du Bélarus? J'aime bien cette énigme tiroir.
Si.
Non,
je me plante sur la ville déjà.
Ah oui, c'est ça le
Il faudrait qu'on travaille ensemble.
Alors,
j'ai envie de dire Minsk, mais j'ai peur que c'est une connerie.
Ah ouais.
Non, c'est ça, c'est Minsk. C'est bien ça, la capitale du Bélarus.
Oui, c'est ça. Oh, pas mal déjà.
Déjà demi-point.
Non.
Non.
Non. C'est ça,
le nom d'un perso de jeu vidéo.
Eh ben, je me demande, c'est pas un truc genre Nezumix ou un truc avec une souris et
Presque, c'est Baldur's Gate 2.
Mais oui, c'est le rat de. Oh, oui,
c'est le rôdeur que l'on rencontre dès le début du jeu qui se nomme Minsk, un grand costaud avec un hamster.
Voilà.
Il y avait une histoire de rongeur quelque part.
Tu vois, c'est l'histoire de ma vie, j'ai des demi-réponses.
Voilà, c'est ça. Alors, la question histoire. Après sa sortie en arcade en 1988 au Japon, le jeu Ghouls and Ghosts a connu de nombreuses adaptations. Qui a été le premier à l'adapter et sur quel support?
Tu veux dire un éditeur, c'est ça?
En dehors du Japon. Et une adaptation.
US Gold?
Le jeu Ghouls and Ghosts a connu de nombreuses adaptations. Qui a été le premier à l'adapter et sur quel support?
Bah pour moi, c'est plutôt sur console, non? Sur Mega Drive ou sur NEC?
C'est peut-être sur un Atari ou.
C'est peut-être sur. Non, c'est pas sur la version NEC?
Eh bien, en fait, il s'agit de Sega. Sega qui le portera en arcade en Europe sur son système Megatech, tout comme la Mega Drive sur le système 16, avant de l'adapter sur Master System.
Alors, attends, ça voulait dire qu'en arcade en Europe, on n'avait pas la version arcade originale du Japon.
Nope. D'ailleurs, le logo.
Okay, bien joué, Marmotte, bien joué cette fois-ci.
D'ailleurs, le logo Capcom n'apparaît pas sur les boîtes Mega Drive et Master System. Capcom est quand même dans la ligne de copyright. Contrairement à celle de l'Amiga, la Super Nintendo et la SRAM CPT et le Commodore 64 où Capcom apparaît. Question économie. La Corée du Sud ayant mis en place un blocus contre les produits culturels japonais, comment Nintendo a fait pour que sa Super Famicom y soit vendue?
Comme une machine éducative, non?
Non.
Avec le Family Trainer, tout ça, non, bon.
Eh bien, ce n'est pas Nintendo qui l'a distribué directement, mais Hyundai, en payant la licence à Nintendo, qui a pu la vendre sous le nom de Super Comboy. Littérature. sur quel titre et quelle machine peut-on retrouver du Molière côtoyant du Victor Hugo?
Armjo sur non, c'est pas du tout Armjo, je dis de la merde.
Molière et Victor Hugo.
J'avais que le jeu de baston des Misères.
Celle-là elle est fourbe. Je préviens quand même, elle est fourbe.
Ça va être le nom de deux vaisseaux spatiaux dans un truc, tu vas voir, ça va être l'arnaque
absolue.
C'est un
jeu connu ou pas? Enfin, c'est un truc un peu obscur.
Alors le truc c'est que c'est sur quel titre? Il a pas dit que c'était un jeu. Ouais, j'ai fait un an. En fait, c'est 100 livres classiques sur Nintendo DS.
Oh non!
Ah,
c'est Marmotte, voyons, c'est pas bien ça.
C'est pas bien.
Là, 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 là.
Et alors, la question qui fait 3 km, enfin la réponse fait 3 km. Citez tous les groupes de musique chanteurs, oui, c'est la question musique, hein, qui ont eu droit à un jeu mentionnant en titre leur nom.
Wham!
Est-ce qu'il a
Chris Cross, bien sûr, Chris Cross sur Mega CD.
Eh bien vu, ouais, tout à fait.
In Excess sur Mega CD.
Exactement.
Ouais.
Guitar Hero Aerosmith, Rock Band Green Day, Rock Band Beatles, Guitar Hero Van Halen.
AC/DC.
Ah oui, exact. C'était Rock Band ou Guitar Hero? C'était Rock Band AC/DC.
C'était Rock Band.
Ah, mais bon, Frankie Goes to Hollywood.
Frankie Goes to Hollywood. Bien joué. Voilà.
Frankie Goes to Hollywood, c'était quoi?
C'était un jeu complètement barré, un jeu d'aventure.
Sur Amstrad CPC, ZX Spectrum.
The Blues Brothers.
Mais en fait, vous en avez mis plus que ce qu'il n'a cité, en fait.
Donc, on est en train d'éclater Marmot.
Non, c'est. Après, voilà, il y a quelques trucs. Get Fit with Mel B. Il y a le Britney Spears sur le Britney Dance Beat.
La version Game Boy Advance était fameuse. Je l'ai fini.
Les SingStar, ABBA et Queen. Il faut pas les oublier. La série 50 Cent.
Le deuxième est un jeu fantastique.
Crewball, un jeu de flipper sur Motley Crue. Sur Mega Drive.
Il y avait Révolution. Oui, mais il y a
Kiss,
pas de
y avait un
voilà, le... Ah
Kiss,
bien, hein. Le Kiss Psycho.
Psycho Ball Circus.
Dreamcast, ouais.
Après, il y a Mega Drive qui nous sort un In Excess Make My Video. Donc,
mais alors, attendez, Kiss, il y a eu un flipper et un FPS pourri.
Voilà,
oui, le, aussi un FPS. Aussi,
le ouais, Kiss ouais. Psycho et le Kiss Pinball. Voilà, effectivement, effectivement, vous êtes hyper fort. Et pour finir avec du style, on a eu droit sur PlayStation au Wu-Tang Shaolin Style. Shaolin
qui était
Style.
Kill à la base.
Wu-Tang Clan. Voilà. Et puis, évidemment, il y a tous ceux que vous avez cités en plus. Je trouve que vous en êtes très, très, très,
et
très
sur,
bien.
Et sur Wu-Tang, il y a un trivia qui est rigolo, c'est qu'à la base, c'est Thrill Kill. Qui était un jeu,
ah oui, un jeu de baston,
un jeu de baston ultra annulé, violent à 4 Virgin. Que Virgin a racheté juste pour le, l'étouffer
ouais.
Et qu'il a au final reskiné avec les gars du Wu-Tang en gardant le même moteur mais en changeant complètement à la base t'avais un nain sur des échelles
ouais,
qui mimait des sodomies sur un diablotin avec à côté une infirmière
ouais,
une infirmière sadomaso enfin c'était bien bien hardcore
ah ouais.
Et c'est, ça a été changé pour devenir le jeu du Wu-Tang.
Eh ben écoute je trouve que cette minute culturelle a tenu ses promesses.
Le jeu WAM sur Spectrum très recommandé évidemment.
Et mon dieu.
Et c'était quoi le gameplay?
C'est un truc de musical.
Fallait réveiller la personne avant le gogo.
Ouais. Wake me up before. Mais est-ce qu'il y avait Carles Whisper?
Ah bah, je pense que c'est 84 85.
Non parce que c'est
le...
selon genre
en midi
gueule,
en midi
ouais, évidemment sur Spectrum pour les connaisseurs.
Non mais il était sur le premier SingStar hein, rappelez-vous Carles Whisper.
C'est vrai.
C'était un
comment
bon
oublier.
J'étais hyper fort. J'étais hyper fort sur Carles Whisper.
Il y avait AA aussi. Ouais.
Bon ça devient gênant en fait. ça devient gênant. On va donc passer à la suite à Antichamber. Je trouve que cette bande-son va très très bien avec ce dont on va parler, Antichamber, développé par Alexander Bruce, qui s'est fait connaître en vidéo et en phase de test sur le nom Hazard Journey of Life, qui a débarqué sur Steam avec la première énigme absolument incroyable de Antichamber, c'est comment jouer avec un clavier AZERTY. Et là, on pleure des larmes de sang. Attends, il faut aller sur le initkd.in et aller mais si je te
tu
jure
tu lances le jeu tu fais alt shift et tu passes du QWERTY à l'AZERTY comme tous les jeux qui ne permettent pas l'AZERTY.
Ah mais là attends moi je suis allé sur le tutoriel enfin sur l'explication sur Steam ils expliquent de faire comme ça parce que
tu t'es pris la tête pour oui enfin parce qu'en fait alt shift tu dois le faire à chaque fois
voilà, on parle un peu cuisine
non mais au-delà de la cuisine c'est intéressant pour les gens qui jouent sur PC et qui sont énervés parce que leur jeu est en QWERTY donc ils ont pas le WASD.
J'ai fait alt shift mais j'ai pas trouvé sur Antichamber.
Il suffit de faire Alt plus Shift et pouf, ton ZQSD devient un WASD inversement.
Oh merde. Bon, oui, ça a marché.
Ça, c'est le petit prototype pour les joueurs PC qui galèrent.
Ouais, mais moi, finalement, j'y suis arrivé. Hein. J'ai réussi. J'ai changé le fichier de config de Antichamber. Mais bref, c'est pas de ça dont on va parler. Hein, de Antichamber, qui est une version sous acide d'un Portal-like, on va dire. C'est-à-dire, on est en FPS. On arrive dans un endroit et là on doit commencer un parcours, commencer à aller à explorer un labyrinthe on va dire, ou à arriver à des nodes, arriver à des croisements, à des endroits précis. Dès qu'on est arrivé à un endroit, il se rajoute à une map accessible à n'importe quel moment et on peut s'y téléporter comme on veut. Enfin on n'a pas là pour le coup on fait pas d'aller-retour intempestif.
Tu peux accéder à un hub en fait en
voilà,
appuyant sur escape.
On accepte très facilement un hub, on se téléporte à chaque endroit dès qu'on est coincé etc. On peut tenter un nouvel embranchement, etc. Qu'est-ce que c'est Antichamber? Je vais te laisser la parole sur les premières impressions. Comment est-ce qu'on peut décrire Antichamber déjà?
Alors, je vais résumer Antichamber sur sa première salle en fait. Tu arrives, tu as un fossé devant toi, puis la suite du jeu plus loin, mais c'est vraiment un fossé qui sépare. Et il y a juste marqué en lettres au-dessus Jump.
Ouais.
Alors, ce que tu fais, c'est que tu sautes. Et puis tu tombes tout en bas du fossé, puis tu tombes sur d'autres pièces avec d'autres énigmes. Au bout d'un moment, t'es bloqué, tu fais échappe, Tu reviens dans cette première pièce, cette fois il y a marqué walk. Et quand tu marches, eh ben, il y a un sol qui se crée là où il y a le fossé, qui disparaît dès que tu vas sauter. Et donc ça va que des choses comme ça qui vont jouer sur ta perception. Tu vas avoir un peu plus tard, je vais pas spoiler beaucoup d'énigmes, mais il y en a vraiment
il faut en parler.
Un autre exemple, c'est que tu vas avoir un escalier rouge qui descend et un bleu qui monte.
Alors là, explique-moi, parce que ça fait partie des sensors.
Tu l'as pas passé?
Non, j'ai pas passé.
Vous allez entendre en live Erwan qui se prend un mindfuck absolu.
Voilà.
Et qui va
je vous explique. On arrive à un endroit, il y a un couloir. Alors il faut voir, hein, l'univers graphique, c'est tout blanc, où en fait on est sur du monochrome à chaque fois. C'est des murs, tout est blanc, on voit juste les découpages du sol, et comme ça on se balade, et après il y a des énormes aplats de couleurs à droite à gauche, des trucs qui flottent dans
ça
les
fonctionne
airs
pas mal,
des, machin, c'est plutôt pas mal. Et là donc on arrive au bout d'un couloir avec un escalier rouge qui descend, un escalier bleu qui monte. On se dit bah je vais choisir l'escalier bleu. On arrive dans un autre couloir et puis on fait un tour et on retombe sur l'escalier bleu qui monte et l'escalier rouge qui descend. On va dire bah je vais prendre l'escalier rouge, machin, et puis on retombe, je reprends l'escalier rouge, je reprends l'escalier bleu, enfin bref, et on retombe toujours là-dessus. Alors à un bout d'un moment, on va dire ah bah tiens, je fais demi-tour et j'arrive dans un couloir, et là en fait je reviens à la situation initiale, mais j'ai pas dû voir un truc.
Ah non, quand tu reviens sur tes pas, en fait t'as la suite du jeu, hein.
Ah ben alors j'ai pas fait. Ben non, parce que j'arrive dans un couloir avec plein de couleurs différentes, et en fait à un moment j'arrive et il me dit de appuyer sur la touche Escape où je reviens.
Ah oui,
au,
voilà,
à la
oui, principale. Oui, mais ça après c'est la suite logique, mais tu as quand même débloqué d'autres choses. C'est pas le même couloir que par celui par lequel tu es arrivé.
Je veux dire qu'il y a plus de. Mais non, parce qu'il y a encore un point où j'ai pas résolu le.
Ah oui, parce que mais il y a une autre énigme.
Ça a l'air prise de tête votre truc.
Ah non, mais c'est
non, mais c'est que des choses comme
ça. Quand vous en parlez,
c'est mindfuck.
Je vais donner un dernier exemple. T'arrives dans une pièce et t'as une fenêtre. À travers
normal,
cette fenêtre, t'es dans une pièce qui est bleue et à travers cette fenêtre, tu vois une pièce qui est rouge. Si tu tournes autour de la fenêtre, tu continues à être dans la pièce bleue. Si tu t'approches de la fenêtre et que tu en recules, t'es dans la pièce rouge. T'es dans la pièce que tu voyais dans la fenêtre.
Voilà, c'est ça.
C'est que des trucs comme ça. Je sais pas si vous aviez lu un bouquin qui s'appelle La Maison des Feuilles.
C'était très très bien.
Là, c'est ça.
C'était très très bien.
Alors, La Maison des Feuilles, c'était un bouquin complètement barré où la typo devenait folle
vert,
en même temps que l'enquêteur.
J'ai prêté le bouquin,
que le livre.
Je me rappelle plus à qui.
Pareil, je l'ai paumé, je suis dégoûté. C'est surtout que maintenant il coûte une fortune, il est introuvable.
Ouais.
Je suis dégoûté. Et La Maison des Feuilles, c'est un espèce de bouquin vivant comme ça qui partait
en fait,
au fur
dans la
mesure.
Forme qui.
Ouais. Et surtout, en fait, finalement, par exemple, l'histoire se déporte sur les notes de bas de page. Hein. Ouais. C'est ce genre de choses.
Ah ouais, enfin, c'est l'histoire d'une maison où tout d'un coup il y a une porte qui ouvre sur une pièce qui n'existe pas de l'autre côté.
Et en fait, la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Voilà. Et Antichamber, c'est ça. Ouais. C'est le mindfuck tout le temps. C'est essayer de comprendre ce qu'on te demande, mais en fait.
Du mindfuck.
Le terme anglais. Donc
prise de tête, quoi.
Mindfuck.
Prise de tête.
Le viol de cerveau. je pense que c'est, voilà. Ça reste correct. Et c'est
d'accord.
Pas... Non, mais c'est vraiment ça. Tu sors d'Antichamber après une heure. Tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer, enfin vraiment t'es perdu.
Et ce qui est très intéressant, c'est que on est c'est cette utilisation en fait du modèle FPS. Moi ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est l'utilisation du modèle FPS qui dans les jeux vidéo est le modèle quasiment idéal pour on va dire accepter les règles du monde classique. Les règles du monde classique, c'est
il y a un escalier, je monte,
il y a un arbre, je me retourne, je me re-retourne, l'arbre est toujours là. Non mais c'est voilà, le FPS
pauvre
sert
fou.
Aussi
non,
le FPS sert dans le jeu vidéo à se balader
à
dans un univers euclidien,
endroits, ouais.
On va dire un univers euclidien classique et à s'y retrouver, c'est la 3D, voilà, on se balade dans un monde en 3D et là finalement en prenant ce gameplay FPS, on a des réflexes à retrouver ce monde euclidien, enfin cette logique. Or, ce qu'a réussi Alexander Bruce, c'est de complètement zapper ça. C'est-à-dire, il se sert justement de l'aspect numérique. Oui, normalement c'est un monde euclidien, mais moi je fais ce que je veux. Je vous amène dans mon monde et maintenant ça va suivre mes règles. Et là, on se met à se demander. Quelle règle est-ce qu'il veut que je suive? Le truc excellent que tu as raconté, c'est ces espèces de vitres où effectivement on voit, on arrive dans une pièce, il y a un couloir de l'autre côté qu'on voit à travers la vitre et finalement si on contourne la vitre, le couloir est pas là. On rentre dans une pièce par un couloir, on se retourne, le couloir est plus là, il y a jamais de couloir. Et donc il y a une déformation en temps réel comme ça tout le temps de la réalité.
Et c'est sur ça qui est impressionnant, c'est que c'est en temps réel, c'est qu'il y a pas un seul loading.
C'est presque de la peinture surréaliste interactive.
Ah mais c'est ça.
Exactement. exactement.
C'est,
et en
c'est
fait,
du Escher.
Voilà, on c'est, se balade dans vidéo, un monde surréaliste.
Il y a un côté art contemporain sans, sans l'aspect chiant de l'art contemporain.
Mais interactif.
En fait.
Dans le jeu, il y a une pièce musée d'art contemporain.
Et il y a une pièce qui est absolument exceptionnelle.
Ouais.
La pièce, cette pièce de musée, enfin la pièce qui est comme une salle d'exposition. En fait, encore une fois, il joue des codes parce que on a des objets qui sont présentés comme ça, soit animés, soit fixes.
C'est des cubes.
Dans des cubes en verre, comme ça. Et en fait, quand on tourne autour, eh bien, en fait, il y a un objet différent à l'intérieur de chaque cube en fonction de chaque face qu'on regarde. Et ça donne un truc très très bizarre où on comprend pas trop ce qu'on regarde, on comprend pas trop les animations. Et c'est vrai que il y a c'est une expérience assez dingue. Et là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que ça reste un jeu. Ça reste un jeu. C'est des énigmes. Sauf que quand on perd ses repères comme ça, ses repères de trois dimensions, ses repères de spatiaux comme ça, ben on est paumé quoi. On est paumé et c'est très intéressant.
Et surtout ce qu'on oublie de dire, ce qu'on va dire, c'est que c'est un jeu effectivement parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a une structure à la Metroid, comme tu le disais, qui a cette espèce de map à laquelle tu vas devoir arriver à des endroits, puis en fait non, t'as pas ce qu'il faut parce qu'on va débloquer des choses au fur et à mesure du jeu. Donc tu vas devoir y revenir puisqu'en fait tu vas débloquer des pistolets au fur et à mesure, des pistolets à cubes. Alors d'abord un pistolet à cube bleu, puis jaune, puis vert, etc. Qui va te permettre, une fois que tu auras le pistolet à cube bleu, tu vas pouvoir en fait enlever des petits cubes bleus à certains endroits pour les placer à d'autres, pour ouvrir des portes ou pour te faire des passages, etc. Et puis à un moment, tu vas essayer d'utiliser le pistolet à cube, en tout cas pour aspirer des cubes à des endroits où c'est pas prévu. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ça ouvre une nouvelle porte vers un nouveau niveau. Donc il y a vraiment des choses un peu partout à faire. Je trouve quand même que ça manque d'une certaine forme d'écriture ou de narration. Je suis pas fan de la manière dont ça a été fait.
Il y a des petits panneaux.
Et je trouve ça un peu prétentieux, quand même, un petit peu poète. Genre, on va t'apprendre la vie. Tu vas voir que tout n'est pas aussi.
Si
la pomme est rouge de ce côté, elle est peut-être verte de l'autre côté si tu la regarderas au coucher du soleil.
Je suis assez d'accord avec toi sur un petit côté un peu.
Un peu pompeux étudiant en art, quoi. Mais...
Oui, voilà. C'est ça, première année.
Voilà. après, je demande pas une GLaDOS. C'est un truc aussi beau et réussi que Portal, mais. Ça aurait été un plus d'avoir une petite scénarisation qui te, enfin, où tu te dis, ok, je suis là pour
ouais,
une
voilà,
raison.
Ouais, voilà, un truc qui se colle un peu plus,
mais ça d'ailleurs. Très musée, hein, ce que vous.
Bah, on a autant l'impression d'être dans une installation d'art contemporain que dans un jeu vidéo, en fait.
Et je trouve que, l'aspect gameplay, est cohérent avec le côté art contemporain, expo et tout ça, mais reste intéressant. Enfin, il y a vraiment du challenge. Enfin,
c'est super dur même.
Mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi sur la trame, les petites affichettes qu'on débloque et qu'on voit en absolu sur le mur du hub. On voit la compile de ce qu'on a déjà débloqué, sont complètement passables. Et c'est vrai qu'on aurait préféré un petit brin d'humour ou un petit brin de décalage, même s'il y a quelques blagues à droite à gauche. Pas forcément la voix off, parce que là ça aurait vraiment, c'est vraiment typé.
Une des blagues qui est très chouette, alors je sais pas combien de temps t'as joué, mais tu sais que dans la salle de base il y a un timer.
Oui,
timer qui dure 1h30. Alors lui tu te dis, j'ai 1h30 pour faire le jeu, et puis tu vas vite comprendre qu'il y a autre chose, bien évidemment, avec ce timer, et je trouve ça assez malin.
Et puis il y a The End, enfin on voit la sortie de la salle de départ, et puis finalement à un moment on passe devant, enfin bon, bref.
Il y a plein de choses très malignes, très chouettes. Je saurais pas dire si ça mérite les 18€ que ça demande actuellement.
Ah, quand même.
15 quand même. Jusque mi-janvier, je crois. Mi-février. Je saurais pas dire si ça les vaut.
Ce sera dans des soldes Steam ou des Humble Bundle.
Quoi qu'il en soit.
Et tout ça, un de ces quatre.
Et je sais pas si c'est un bon ou si c'est un mauvais jeu, mais waouh, il y a des trucs que je n'avais jamais vu dans un jeu vidéo. Et juste pour ça. Le jour où il tombe à moins de 5€ sur Steam, il faut le prendre et au moins y jeter une heure, quoi.
Oui, je pense que du coup,
c'est intéressant, quoi.
C'est une expérience super intéressante. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On a fait long, dis donc, c'est dingue, ça. C'est tout pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Pipo?
Alors, quand je ne joue pas, je me délecte de la saison 4 d'Archer qui vient de commencer aux États-Unis. Archer est un dessin animé pour les grands garçons, ou pour les grandes filles d'ailleurs, puisque c'est l'histoire d'un agent secret complètement débile, obsédé sexuel, raciste, homophobe, un espèce d'OSS 117 vu par des Américains. C'est à pleurer de rire, c'est pas toujours très fin, c'est pas très beau non plus, mais voilà, c'est super bien écrit, c'est fantastiquement bien joué, puisqu'il y a des anciens du SNL qui jouent dedans, il y a Aisha Tyler, il y a vraiment, enfin, c'est... C'est assez haut de gamme en termes d'écriture et je le conseille. Voilà,
d'accord.
Ça me fait beaucoup rire.
Mm-hmm. Patrick.
Alors moi, j'ai attaqué le deuxième volume de la révolution PlayStation. Je vous avais parlé du premier volume il y a deux semaines, je crois, qui était sur Ken Kutaragi, donc vraiment le chef d'orchestre de la bécane. Là, le deuxième volume, ça s'appelle Les Hommes de l'Ombre. C'est signé Ryoji Akagawa, qui lui est un ancien de Sony, donc qui parle de l'intérieur. Et c'est une compilation d'interviews. Alors c'est aussi très intéressant. C'est plus décousu parce que voilà, on parle donc l'auteur fait intervenir aussi bien des gens de Sony que des éditeurs tiers. Toujours la même thématique, le lancement de la première PlayStation, la fabrication de la première, l'élaboration de la machine. Et c'est toujours très intéressant.
À l'époque où ça devait être le...
Ah bah c'est post-crash avec Nintendo.
Ouais, d'accord, ok.
C'est comment on construit la console, encore une fois. Et là, c'est avec aussi des interventions de journalistes et de développeurs aussi. Là, je viens de lire l'interview des gens qui avaient fait Aquanauts Holiday. Et pour ceux qui l'ont connu à l'époque, ça ravive de bons souvenirs. Donc voilà, c'est super intéressant. Moi, je me régale avec ces deux bouquins. Et c'est vraiment sur la construction de la machine.
C'est édité chez
Pix. Pix and Love, évidemment, qui a sorti ces deux volumes. Il y a quelques semaines.
Who else? Moi, pour ma part, j'ai enfin vu cette formidable série Les Revenants, diffusée à la fin de l'année sur Canal. Franchement, c'est très très belle surprise. T'as vu, j'ai fait un trait en moins, parce que Louise n'était pas d'accord. J'en avais mis trois avant Louise qui fait la réale de cette émission. Mais voilà, c'est une très belle surprise. Enfin, le tournage, enfin la mise en scène est impeccable. Les acteurs sont vraiment super bons. Les lieux de tournage, la photo, tout est bien. Et avant tout, le scénario, c'est les morts vivants. Mais ce ne sont pas des zombies et finalement les morts vivants sont-ils plus vivants que les vivants eux-mêmes? C'est un peu ça l'univers de base. On est plongé dans un fantastique du quotidien. Enfin voilà, il y a vraiment une mise en scène du quotidien aujourd'hui dans une ville française et il y a ce machin fantastique qui débarque et les gens sont confrontés à un truc auquel ils ne croient pas et c'est mis en scène d'une manière, enfin c'est raconté d'une histoire d'une façon très simple. Voilà, moi j'ai vraiment été.
C'est quoi la base? C'est un bouquin,
c'est à la base,
il y a
un film,
enfin, il y a un film
il y a 10 ans, à la base et mais bon voilà, c'est l'idée de départ qui est inspirée de ce film et franchement c'est une excellente surprise. Moi ça me fait marrer parce que aujourd'hui quand on regarde un peu sur Twitter ou ce genre de choses, ça doit être la première fois que j'ai vu ça, on voit des Américains qui regardent une série française en VO sous-titrée.
Wow,
et
cool.
Ça franchement je crois que j'avais jamais vu ça. Et voilà, donc c'est Les Revenants, passer sur Canal+. Voilà, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.